avez vu la dernière fois, toujours les problèmes de chronologie en ce qui concerne de l'archéologie, parce que les problèmes de chronologie, comme nous l'avons vu, sont des problèmes essentiels. Et alors, on était en train de faire un tableau syncrétique, merci, et synoptique, si on peut dire, de trois chronologies. La chronologie égyptienne, qui est basée, comme on l'a déjà dit, sur la liste de Manéthô, prêtre égyptien de l'époque ptolémaïque, qui a fait une chronologie des 30 dynasties qui se sont succédées sur le trône de l'Égypte depuis les origines jusqu'à la conquête d'Alexandre le Grand en 333. La chronologie mésopotamienne, donc synoptique, et maintenant on était arrivé à la chronologie du pays d'Israël, parce que nous avons vu que le pays d'Israël est situé entre ces deux grands empires, et que par conséquent, il est tributaire au point de vue économique, culturel, politique, militaire, etc., de ces deux grands empires, entre lesquels il est pris en sandwich, et il y a un jeu de bascule qui se fait constamment. Tantôt il tombe sous l'influence de l'un, tantôt sous l'influence de l'autre, et tantôt donc il est en opposition avec un des deux empires, tantôt une opposition avec l'autre. Bon. Donc nous étions restés sur la première époque, donc l'époque la plus reculée au point de vue archéologique 100 ans, c'est-à-dire l'époque néolithique. L'époque néolithique qui... Bon, là c'est pareil. Alors là, quand on fait de l'archéologie, il n'y a pas, si vous voulez, de règles absolues en ce qui concerne la terminologie. Et alors ce qui est extrêmement agaçant quand on fait de l'archéologie, c'est que pratiquement chaque archéologue a son propre système de référence, son propre vocabulaire, et quand on passe d'un archéologue à l'autre, il faut se réhabituer à son langage, à son bon. Alors, l'époque néolithique, c'est le terme le plus généralement employé. Mais, par exemple, Miss Kenyon appelle cette période-là l'époque pré-céramique. Bon, pourquoi ? Parce que c'est une époque où on n'avait pas encore utilisé la poterie, la céramique. Par contre, on utilisait déjà des vases de pierre, des vases taillés directement dans la pierre, mais pas encore des vases modelés à partir de l'argile. Bon. Miss Kenyon divise cette époque en deux, pré-céramique 1 et pré-céramique 2. Bon, alors ça, faut savoir, si on prend d'autres auteurs, on ne trouvera pas du tout cette terminologie, on emploie tout simplement le terme néolithique. D'autres auteurs, pour désigner la dernière époque, parlent de l'époque natoufienne. Époque natoufienne, à cause justement des premiers habitants qu'on trouve dans la région d'Israël, notamment les grottes du Carmel, une époque encore qui est considérée comme préhistorique, encore que, comme nous aurons l'occasion de le voir, la civilisation de cette époque-là était déjà extrêmement avancée. Maintenant, nous arrivons au 4e millénaire avant Jésus-Christ. 4e millénaire, qu'on appelle époque chalcolithique. C'est un mot qui est composé de deux mots grecs, chalkos qui signifie le cuivre, lithos qui signifie la pierre. Avec l'époque chalcolithique, on est en principe à la charnière, à la transition entre l'époque préhistorique et l'époque historique. L'époque chalcolithique, si vous voulez, c'est grosso modo l'époque de nos menhirs et de nos dolmens, etc. Ce sont des civilisations qui sont contemporaines. C'est l'époque, comme son nom l'indique, où on continue évidemment à utiliser lithos, la pierre, puisque selon évidemment le schéma traditionnel des paléontologues, basé sur la vision darwiniste de l'évolution, l'humanité a commencé par des espèces de singes plus ou moins grossiers qui taillaient plus ou moins maladroitement donc des silex, bon, donc lithos, hein. Et à partir de l'époque chalcolithique, c'est-à-dire 4e millénaire avant Jésus-Christ, on commence à utiliser le cuivre, à fondre le cuivre. Et les premiers instruments de cuivre qui ensuite ajouté avec de l'étain et autres ingrédients du même genre donneront du bronze, n'est-ce pas? Donc c'est le départ de l'industrie métallurgique. Donc la métallurgie qui commence à cette période-là. Bon, c'est valable pour tout le Moyen-Orient, mais c'est valable aussi pour le pays d'Israël. Maintenant, si vous consultez des ouvrages d'égyptologie, cette période s'appelle en égyptologie en général l'époque pré-dynastique, c'est-à-dire l'époque où le pays d'Égypte était divisé en une sorte de petites cités-états qui étaient plus ou moins indépendantes, et ensuite qui, dans la deuxième période, se sont donc rassemblés dans deux pays, la Basse et la Haute Égypte, jusqu'au moment où le roi Narmer, qui a été le premier des pharaons du pays unifié, donc a rassemblé sous son pouvoir donc la Haute et la Basse Égypte, avec la couronne qu'on trouve déjà sur les représentations égyptiennes de cette période prouvée par son musée du Louvre, les deux couronnes, n'est-ce pas, la couronne de la Haute et de la Basse Égypte, c'est le début de l'Égypte pharaonique, de l'Égypte classique, qui commence à partir de cette période-là. Donc nous avons vu qu'il y a deux dates différentes selon les chercheurs, à partir de la liste de Manetho, qui est corrigée parce que la liste de Manetho contient des erreurs. Donc soit la chronologie longue, 3100 avant Jésus-Christ, soit la chronologie courte, 2900 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire donc deux siècles de différence. C'est quand même pas rien. Donc si vous voulez, ça correspond à l'époque chalcolithique, Égypte pré-dynastique. Maintenant, à la période de l'Ancien Empire égyptien, c'est-à-dire qui va, comme on l'a vu, hein, de 3100 ou 2900 jusqu'à 2100 à peu près, hein, première période intermédiaire. Bon, là, on a ce qu'on appelle en Israël la période du bronze ancien. En anglais, early bronze, on met tout simplement EB. Early bronze, bronze ancien. Bon. Ça correspond exactement à cette période-là. Maintenant, les archéologues ont divisé cette période en plusieurs sous-périodes. Soit, alors, 1, 2 et 3. Donc, Early Bronze 1, Early Bronze 2, and Early Bronze 3. Hein? Bronze ancien 1, Bronze ancien 2 en français, Bronze ancien 3. Bon. Alors, évidemment, tout ça, c'est un peu arbitraire. C'est de l'arbitraire, forcément, pour une bonne et simple raison, c'est que les gens de l'époque ne disaient pas « Nous vivons à l'époque du Bronze ancien 1 ou du Bronze ancien 2 ». Et puis, il n'y avait pas un décret qui a dit « à partir d'aujourd'hui, nous passons de l'époque du bronze ancien 1 à l'époque du bronze ancien 2 ». Bon. La transition entre ces périodes n'est pas donc simple à faire, dans la mesure où, qu'est-ce qui fait que l'on change de période, si vous voulez, c'est qu'on a une nouvelle culture, une nouvelle civilisation qui apparaît. Mais cette culture et cette civilisation, elle n'apparaît pas, elle apparaît parfois d'une manière assez brutale, d'autres fois c'est beaucoup plus lent. Et elle n'apparaît pas au même moment dans tous les lieux. C'est ça qui est justement le gros problème. Par exemple, la transition entre l'époque chalcolithique et l'époque du bronze ancien 1, dans le pays d'Israël, est différente. Dans le sud, l'époque chalcolithique coexiste avec l'époque du bronze ancien dans le nord. Ça veut dire que, si vous voulez, en 2000, je ne sais pas, parce que là on est dans des chiffres à peu près arbitraires, là, tout ça c'est du... prenons la chronologie courte, hein, disons à 2900, on est encore dans le sud du pays, à l'époque chalcolithique, mais dans le nord du pays, on est déjà à l'époque du bronze ancien. Par exemple à Megiddo, on est déjà à l'époque du bronze ancien. Si bien que, si vous voulez, les savants ne sont pas d'accord pour diviser justement les sous-groupes. Vous avez donc des gens qui situent le bons anciens 1 de donc 2100 ou 2900. Ça, c'est déjà le point de départ n'est pas le même. Le point d'arrivée non plus n'est pas le même parce que vous allez arriver par exemple à 2300. Hein, on est là à peu près. Là. Le bronze 1, le terminus post-quem, c'est à peu près 2300. Après, donc, on a une période qui est beaucoup plus courte, le bronze ancien 2. Hein, et puis encore une période encore beaucoup plus courte, le bronze ancien 3. Là, on n'est pas d'accord. Pas d'accord. Alors, bon, je dis que c'est extrêmement complexe parce que selon l'auteur auquel vous vous reportez, les auteurs n'ont pas la même chronologie. Alors, ça simplifie beaucoup, évidemment, la tâche, hein, pour essayer de se retrouver un petit peu dans les terminologies différentes. Bon. Si les choses n'étaient déjà pas assez simples, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Vous avez encore d'autres terminologies qui sont employées. À la place de bronze ancien, on emploie cananéen ancien. Par exemple, c'est le cas, si vous lisez à Aaroni, c'est le terme qu'il emploie. Cananéen ancien, au lieu de donc bronze ancien. Bon, disons que l'avantage de la terminologie bronze ancien, c'est que, si vous voulez, elle correspond avec la culture de tous les pays voisins, grosso modo. Et même, si vous voulez, en Égypte, quand on parle de l'Ancien Empire, on parle aussi du bronze ancien. Bien entendu, en Mésopotamie, on a aussi l'époque du bronze ancien. Donc, si vous voulez, le gros avantage de cette terminologie-là, c'est qu'elle permet justement d'avoir une synopse avec tous les pays voisins, l'Anatolie, les îles de la Grèce, et même, comme nous avons vu, nos régions. Nos régions, puisque là, on est à la fin de l'époque mégalithique. Alors, ensuite, on a la première période intermédiaire, qui correspond à l'Early Bronze 3, justement, et qui va jusqu'à 1900 avant Jésus-Christ. Bon, encore une fois, tout ça, c'est très arbitraire, quoi, hein, puisque dans la mesure où, dans les lieux, ça diffère, selon les auteurs, ça diffère aussi. Bon, on est à des conjonctures. On appelle ça, donc, ça correspond au Moyen Empire égyptien. Donc, on va employer la même expression, bronze moyen. Bronze moyen, qui va jusqu'à 1750, en Jésus-Christ, qui correspond donc grosso modo au Moyen Empire égyptien, ou alors aussi, si vous lisez Aaroni, vous allez trouver cananéen moyen, époque cananéenne moyenne. Bon. Alors, en anglais, on met Middle Bronze, MB. Middle Bronze, c'est donc le bronze moyen. Bon, la même chose aussi, là, vous avez une sous-division, hein, en Middle Bronze 1, donc bronze moyen 1 et bronze moyen 2, et aussi bronze moyen 3, qui correspond à la deuxième période intermédiaire. C'est-à-dire la période qui va de 1750 à 1550. Bon, là, donc, on divise en deux, 1750, oui, bon, ça c'est à peu près bien répertorié. Ensuite, n'est-ce pas, on va de 1750 à 1650, bronze moyen 2, et puis 1650, 1550, bronze moyen 3. Bon, grosso modo, si vous voulez, vous trouverez aussi une autre désignation de cette période, soit donc deuxième période intermédiaire, soit époque Hyksos. Époque Hyksos, parce que les Hyksos ne sont pas simplement des gens qui envahissent l'Égypte, mais également qui envahissent tout le Moyen-Orient, toute l'Anatolie. Voilà, donc ça c'est autre chose. Troisième période, qui correspond au nouvel empire égyptien, c'est l'époque de ce qu'on appelle le bronze récent. Bronze récent, 1550, plus ou moins, quoi, entre 1000 et 900, c'est selon les régions, quoi. Bon. 11 restants. Attendez, non, je vous dis des bêtises. Dans un sens, si c'est, oui, 1100 000, c'est l'inverse. 1100, oui, que je marque. Alors, cette période-là est aussi appelée époque cananéenne récente. Voilà, en abrégé, RB, Recent Bronze. Alors là aussi, sous-division, qui correspondent à peu près à un siècle, quoi. Voilà, donc un siècle, bronze récent 1. Ensuite, si vous voulez, le 14e siècle, c'est le bronze récent 2. Alors ça correspond à une période historique bien précise qu'on appelle l'époque d'Amarna. L'époque d'Amarna, c'est l'époque où sur le trône de l'Égypte est arrivé un pharaon particulier qui était un peu original, s'appelait Amenhotep IV, qui a changé son nom en Ikhnaton, c'est-à-dire l'adorateur d'Aton. Aton, c'était le nom du soleil. Et Ikhnaton, Amenhotep, alias Amenhotep IV, a fait une réforme religieuse très audacieuse, qui n'était pas un monothéisme, comme on le prétend d'ailleurs habituellement, c'était une monolâtrie. C'est-à-dire qu'il avait aboli tous les autres dieux, notamment le dieu Aton, le dieu Amon, je veux dire, et il avait gardé uniquement le culte du soleil, le culte solaire. Et alors, il avait même changé sa capitale, qu'il avait installée à Avaris, qui est appelée aujourd'hui El Amarna. Et c'est pourquoi on appelle toute cette période, qui a duré en gros justement un petit siècle, l'époque d'Amarna. L'époque d'Amarna, parce que justement il y a eu une culture tout à fait particulière qui est née pendant cette période-là, et à la mort donc d'Amenhotep IV, son fils a régné peu de temps, c'est le célèbre Toutanakhamon, qui avait été appelé par son père Toutanakhaton. Ensuite, quand le clergé d'Amon a ramené l'Égypte dans le culte traditionnel, on a changé le nom du roi en Toutanakhamon. Et à la mort de Toutanakhamon, très jeune comme on sait, l'Égypte est revenue donc au système traditionnel ancien. Donc c'est la troisième période, donc le bronze récent 3. Ça c'est l'époque, si vous voulez, du Ramsès II, et, enfin l'époque de l'Égypte la plus connue, disons quoi, la plus populaire aussi. Bon. Donc si vous voulez, grosso modo, vraisemblablement, l'époque de l'Exode. Voilà. Donc on peut l'appeler aussi cananéenne récente. Époque cananéenne récente, si vous lisez Aaronie par exemple. Après ça, donc, on a une troisième période qui est la période du fer. Période du fer. Bon, c'est pareil. Là, on n'a pas de point de départ extrêmement précis. Parce que finalement, c'est au XIIe siècle que l'industrie du fer se répand au Moyen-Orient. Le fer est du bronze amélioré, si on peut dire, n'est-ce pas ? Beaucoup plus solide. Le bronze est cassant, tandis que le fer est beaucoup plus résistant. Tant et si bien qu'il est possible de fabriquer des armes, essentiellement, beaucoup plus longues. On ne peut pas, par exemple, fabriquer des grandes épées de bronze, parce qu'au-delà d'une certaine longueur, il suffit de frapper d'une manière un peu forte sur quelque chose qui résiste un peu, quelqu'un qui a eu un crâne particulièrement dur, ou un casque, etc., et votre épée peut se casser. On n'a pas ces problèmes avec le fer. Donc, ceux qui utilisent le fer ont un avantage énorme sur ceux qui utilisent le bronze. Bon, il est évident que pendant toute une époque, et notamment on voit ça dans la Bible, fer et bronze vont coexister. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une coupure nette, comme je disais tout à l'heure. On ne décrète pas, tiens, aujourd'hui, n'est-ce pas, on passe de l'âge du bronze à l'âge du fer. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Bon, maintenant, qui a amené le fer au Moyen-Orient? Vraisemblablement nos ancêtres les Gaulois. Qui étaient eux-mêmes les ancêtres de ce que la Bible appelle les Philistins et que les Égyptiens appellent les peuples de la mer. Bon. Vous avez tous entendu parler de la fameuse légende de Troie, la prise de Troie. Et pendant longtemps, on a pensé qu'il s'agissait d'une légende, qui n'avait aucun fondement historique. C'est au XIXe siècle, un archéologue allemand du nom de Schliemann qui a pensé qu'il devait y avoir quelque chose d'historique dans la légende de Troie. Il est allé sur place, en Turquie, et il a fouillé ce que l'on donnait dans la tradition locale comme étant les ruines de la Troie homérique. Et il a trouvé effectivement le système des tels, tel que l'on l'a défini. Donc plusieurs villes ont entreposé les unes, entrepris les unes sur les autres, et notamment une ville qui datait du XIIe siècle, et qui, qui était une ville extrêmement fortifiée, et qui portait des traces d'une destruction totale et d'incendie, etc., qui correspondait grosso modo au récit qu'en fait Homère. Bon, en admettant que dans le récit homérique, il y a bien sûr des aspects légendaires, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a vraisemblablement dans cette histoire un noyau historique. Et aujourd'hui, la plupart des chercheurs sont convaincus que la guerre de Troie, telle que la racontent les sources classiques, est en fait une bataille qui a eu lieu entre ce qu'on appelle les peuples de la mer, ça veut dire des peuples qui sont venus de l'Égée et qui sont venus beaucoup plus de l'Ouest vraisemblablement qu'on ne le pensait, c'est-à-dire peut-être même de nos régions, de nos côtes, ça, et qui, après avoir envahi la Grèce, ont envahi l'Anatolie. Donc ils ont débarqué à Troie, à Troas, l'extrémité de la Turquie actuelle. Et puis là, donc, ils ont suivi la côte sud de la Turquie, sont redescendus donc, le long de la côte de la Syrie, du Liban, etc., jusqu'en Égypte, jusqu'au delta du Nil. Là, ils ont été bloqués de justesse par Ramsès III et refoulés donc dans le pays de Canaan, où ils se sont installés. Et là, ils ont formé ce que l'on appelle, ce que David appelle les Philistins. Philistins du nom d'une des tribus qui composaient ces peuples de la mer et que les sources égyptiennes appellent les Paloussim ou Palouchim. Donc Paloussim, Plishtim en hébreu, donc Philistins. Et ces gens étaient extrêmement dangereux sur le plan militaire parce que justement ils avaient le secret de technique du fer. Ils savaient comment forger le fer. Et ça leur donnait un avantage absolument considérable. Vous voyez ça dans la Bible d'ailleurs. Les techniques des forges du fer étaient soigneusement, jalousement gardées. C'était un secret militaire. Et les Philistins avaient, du temps où ils dominaient sur Israël après la bataille des Vénézères, ils avaient donc le monopole et les Israélites qui avaient besoin d'instruments devaient passer par les Philistins, jusqu'au moment évidemment où aucun secret n'est éternel et finalement le secret a fini par être connu et être utilisé par des forgerons israélites bien entendu, ce qui a rétabli l'équilibre des forces. Mais pendant tout un temps, c'est ça. Donc, si vous voulez, nous avons, aux environs de 1100 avant Jésus-Christ, apparition donc, de l'âge du fer en Grèce, en Anatolie, en Syrie. Mais si vous voulez, dans le pays d'Israël, c'est un siècle plus tard. Parce qu'il a fallu que tous ces événements aient lieu, si vous voulez. Et encore, finalement, on arrive presque vers l'an 1000. Quand on a affaire à l'âge du fer au sens propre du terme en Israël. Alors, où finit l'âge du bronze récent et où commence l'âge du fer? Ça dépend, si vous voulez, de la fantaisie des différents chercheurs, quoi, en fin de compte. Ça dépend des endroits aussi. Ça dépend des endroits. Bon. Il est évident que sur la côte, où étaient installés les Philistins, d'une certaine manière, l'âge du fer commence plus tôt que si vous prenez Jérusalem, si vous prenez les régions montagneuses, ou encore, plus encore, si vous prenez les régions du Negev, qui sont beaucoup plus excentrées. Même chose pour ce qui concerne la Transjordanie, si on va plus loin ensuite. Alors, l'âge du fer, en général, est divisé en deux. Fer 1 et fer 2. Le fer 1 commence de 1100, si vous voulez, avant Jésus-Christ, jusqu'à, disons, 950 avant Jésus-Christ. Et le fer 2 va de 950 avant Jésus-Christ jusqu'à 586, c'est-à-dire la chute de Jérusalem entre les mains des Chaldéens, des Babyloniens, des Nebuchadnezzar. En fait, il n'y a pas de véritable raison archéologique pour cette division. Cette division, elle est en fait historique. C'est-à-dire que ce qui correspond à l'époque du fer 1 correspond à l'époque, disons, de la prédynastique en Israël, c'est-à-dire l'époque des juges et époque de la monarchie unie jusqu'à la mort de Salomon. Et le fer 2 correspond grosso modo à l'époque de la monarchie divisée, des deux royaumes, les royaumes d'Israël et les royaumes de Juda. Ça, c'est en général la chronologie la plus généralement acceptée. Maintenant, il y a d'autres chronologies, plus minoritaires, bon, qui divisent la période du fer en trois. Fer 1, fer 2 et fer 3. Le fer 1 correspond grosso modo, alors ça aussi ça change, hein. Vous avez, pour certains chercheurs, ça correspond à l'époque du fer 1 dans la classification habituelle qui est celle d'Albright. Et là, on divise, si vous voulez, le fer 2 en deux. Ça veut dire une première époque qui va de 950 à 722, c'est-à-dire la chute du royaume du Nord. Donc, c'est le fer 2. Et fer 3, donc, c'est l'époque où le royaume de Juda survit seul. Ça veut dire de 722 jusqu'en 586. Bon. Alors, il y a d'autres qui font une autre classification. Aussi à partir de fer 1, 2 et 3, mais le fer 1 correspond, si vous voulez, à l'époque qui va de la conquête jusqu'à l'avènement de David, c'est-à-dire, ou même de Saül, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement de la monarchie, c'est-à-dire jusqu'à 1000 à peu près, parce que là c'est pareil, on ne sait pas exactement. Ensuite, fer 2, 1000 à la mort de Salomon, 950. Et puis faire 3, donc, jusqu'à la chute du royaume de Juda, 586. Bon. Cette classification porte aussi un autre nom, l'époque israélite. Au lieu de trouver faire 1, faire 2 et faire 3, vous pouvez trouver aussi époque israélite 1, époque israélite 2, époque israélite 3. Bon, il faut savoir ça parce qu'on peut trouver les deux terminologies, hein. Selon les ouvrages auxquels on se réfère. Après l'époque israélite, alors on commence avec les périodes historiques. Là, il n'y a plus de désignation à proprement parler archéologique, mais on parlera ensuite de l'époque perse, c'est-à-dire l'époque historique. Là, on fait le synchronisme total, parce qu'en plus de ça, la Perse, là, ce sont des empires qui s'emparent de tout le Moyen-Orient. Ça vaut pour l'Égypte, pour Israël, Syrie et pour la Mésopotamie. C'est l'époque perse, tout simplement. L'époque perse qui va de 536, c'est-à-dire chute de Babylone aux mains de Cyrus de Perse, jusqu'à 333, c'est-à-dire conquête du Moyen-Orient par Alexandre le Grand. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'époque perse. Commence ensuite l'époque hellénistique. Hellénistique, donc de 333, la fameuse bataille au cours de laquelle Alexandre le Grand défait donc, les forces perses. L'empire perse était un empire tellement centralisé que c'était un édifice, si vous voulez, qui était finalement un colosse au pied d'argile. Et il avait suffi que le roi soit tué au cours de la bataille d'Ipsos, hein, et tout l'Empire s'effondre. Tout l'Empire passe entre les mains du comte du conquérant. Hein. C'était un colosse au pied d'argile. Bon. Donc, époque hellénistique qui suit la mort de d'Alexandre de Macédoine et qui dure jusqu'à la conquête romaine. Pour ce qui concerne le pays d'Israël, c'est-à-dire 63 avant Jésus-Christ. Donc de 333 à 63, on a l'époque hellénistique. 63, Pompée s'empare de Jérusalem et commence alors l'époque romaine. Bon. Alors là, les terminologies aussi peuvent changer. On a, dans la période hellénistique, on a des sous-divisions. La première période, qui part à partir de 333, c'est l'époque ptolémaïque, c'est-à-dire l'époque où le pays d'Israël a été sous la domination des Ptolémées d'Égypte. Ça veut dire d'un des généraux Ptolémée qui s'était proclamé roi après la mort d'Alexandre et qui s'était donc emparé essentiellement de l'Égypte. 168 avant Jésus-Christ, c'est l'inverse. Antiochus III de Syrie s'empare du pays d'Israël. Commence alors, justement, l'époque lagide pour ce qui concerne le pays d'Israël. Même chose en ce qui concerne l'époque romaine. L'époque romaine qui va jusque 63 à moins 4 est appelée par un certain nombre de chercheurs époque hérodienne. Elle correspond en effet à la période qui précède, si vous voulez, l'arrivée d'Hérode au pouvoir, c'est-à-dire l'agonie du royaume asmonéen, de la dynastie asmonéenne, et l'arrivée d'Hérode au pouvoir jusqu'à sa mort en moins 4. Ensuite, on a l'époque de l'administration directe du pays par les gouverneurs romains, qui va jusqu'en 70, on appelle l'époque romaine 1, et puis ensuite, l'époque romaine 2, qui va depuis cette période-là Constantin, finalement, jusqu'à 4e siècle, grosso modo, où commence alors l'époque byzantine. L'époque byzantine, jusqu'à la conquête arabe. Et là, commence alors, effectivement, l'époque arabe. Bon, l'époque arabe, elle nous intéresse moins, parce que là, on sort du cadre de l'histoire biblique, et là, ce n'est plus de l'archéologie biblique. Mais enfin, disons, on peut quand même en parler. Bon, ça correspond aussi aux époques historiques. Elle est entrecoupée par l'époque croisée. On trouve aussi de nombreux objets croisés, bien sûr, en Israël. Et puis, pour culminer avec l'époque ottomane, 1516, jusqu'à nos jours, pratiquement. Voilà. Donc ici, grosso modo, nous avons une chronologie archéologique du pays d'Israël. Comme je l'ai dit depuis le commencement de ces études, il est parfaitement clair qu'il est impossible en archéologie de faire l'économie des sources historiques. Et que plus on avance dans le temps, d'ailleurs, vous en êtes rendu compte, même avec cette nomenclature-là, plus on avance dans le temps, et plus les sources historiques prennent d'importance, y compris pour l'archéologue. Et comme le disait le professeur Gadine, quand, à la fin des années 80, on a commencé à mettre en doute, dans la génération de ce qu'on appelait les nouveaux archéologues, l'existence d'une archéologie biblique. Et certains ne voulaient plus même employer, ne veulent plus jusqu'à aujourd'hui, employer le terme d'archéologie biblique. Le professeur Gadine a plaidé jusqu'à son dernier souffle pour justement le maintien du terme d'archéologie biblique, car, disait-il, l'archéologue est obligé d'être un spécialiste de la Bible. Il ne peut pas faire l'économie de la Bible. Ce que veulent faire aujourd'hui un certain nombre de nouveaux archéologues, et ce qui les conduit à faire des erreurs énormes, justement parce qu'ils veulent court-circuiter la Bible, ou même, il suffit que la Bible affirme quelque chose pour qu'ils prennent systématiquement le contre-pied. On arrive maintenant à ce stade d'aberration. Bon, ça, si vous voulez, ici, on a fait grosso modo le tour de ce que l'on pourrait appeler l'archéologie classique. Archéologie classique qui, donc, fait appel, nous l'avons vu, à la stratigraphie, c'est-à-dire le fait que les villes anciennes ont toujours été reconstruites au même endroit, donc il y a accumulation de débris des différentes villes les unes sur les autres, formant des strates dans des collines artificielles appelées telles. Bon, la datation par les poteries essentiellement, accessoirement. Alors ça a été corrigé par les Israéliens. C'est Miss Kenyon qui avait mis au point cette technique-là. Les Israéliens l'ont perfectionné dans les années 50 et 60, notamment le professeur Aharoni, en remarquant qu'à côté de la datation par les poteries qui reste encore de nos jours fondamentale, il faut aussi tenir compte de l'architecture. Et qu'il y a aussi des styles et des modes d'architecture très particuliers selon les époques et selon les cultures. Et que la combinaison, justement, entre la datation par les poteries et la datation par l'architecture permet, justement, de corriger un certain nombre d'erreurs auxquelles la datation, à laquelle la datation uniquement par les poteries avait pu conduire dans les années 40, si vous voulez, les années d'avant, enfin, entre les deux guerres et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Notons aussi un autre aspect que les Israéliens donc avaient, sur lequel ils insistaient énormément, c'était le fait que pour avoir une datation sûre en ce qui concerne les poteries, on s'est rendu compte qu'on avait fait des erreurs assez importantes en utilisant la datation par les poteries, parce qu'on utilisait des tessons. Bon, quand j'étais étudiant en archéologie, il y a déjà pas mal d'années maintenant, on devait être capable, au bout de son cursus, simplement en prenant un tesson de poterie de cette dimension-là, de dire à quelle poterie il appartenait, ça on est toujours capable de le faire, la datation, etc. En fait, comme l'a remarqué Mme Ruth Amiran, qui est la grande spécialiste de la poterie d'Eretz Israël, ce qui frappe quand on étudie justement l'histoire de la céramique en Israël, c'est de voir qu'il y a une très grande stabilité des formes des poteries. Et finalement, les cultures qui viennent, par exemple, prenons le cas des Israélites. Les Israélites qui arrivent vers, disons 150 avant Jésus-Christ, selon la datation traditionnelle, si vous voulez, sous la conduite de Josué, ils trouvent une culture cananéenne, le cananéen récent, bronze récent, si vous préférez, extrêmement développé sur le plan de la poterie. Le pays d'Israël, la civilisation cananéenne, est au confluent, justement, de tout le monde ancien. On y trouve l'influence de la poterie égyptienne, notamment la poterie d'Amarna, dont nous avons parlé. On y trouve des importations mycéniennes, ça veut dire des îles de la Grèce. On y trouve des importations de Chypre et des importations d'Anatolie. Et tout ça, donc, a donné naissance à des formes nouvelles de poterie locale, qui s'est inspirée, évidemment, de ces différentes influences aussi, notamment dans le fait que ces poteries vont être peintes et décorées. Par exemple, on a un type de poterie tout à fait spéciale de cette période-là qu'on appelle chocolate ware, en anglais. Ça veut dire avec des bandes en couleur chocolat, ça vient directement de Chypre. C'est une influence cypriote. Bon. Viennent les Israélites. Les Israélites, eux, ils ont une tradition céramique extrêmement frustre. Et les premières poteries israélites qu'on trouve sont extrêmement grossières. C'est une civilisation matérielle qui n'est pas développée par rapport à la civilisation cananéenne qui est infiniment plus développée que ne l'est la civilisation israélite. Bon. Que font les Israélites? Si les premières poteries sont frustes, en très peu de temps, ils s'adaptent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent les poteries cananéennes et ils les adaptent. Ils les copient, tout bêtement. Après tout, pourquoi pas? C'est pas bête. Pas la peine de se casser la tête quand d'autres ont déjà... On va pas refaire le monde. Bon. Ils vont même plus loin. Ils récupèrent la poterie philistine. Laquelle poterie philistine, elle-même, était un confluent, justement, et essentiellement une évolution, une branche de la poterie mycénienne. Ça veut dire de la poterie grecque, puisque, justement, les Philistins venaient de Grèce. Alors justement, si on ne fait pas attention, on trouve un tesson de poterie, par exemple, type mycénienne B. Ah, on dit, tiens, voilà une poterie qui est importée de Mycène. Non, si vous prenez juste un tesson de poterie, c'est peut-être une poterie locale qui a été fabriquée par les Israélites, mais qui a été copiée par, justement, de la poterie mycénienne. Et là, vous pouvez vous mettre dedans complètement. C'est ce que fait ce brave Finkelstein quand justement il dit on trouve jusqu'à l'époque d'Akkab à Megiddo de la poterie mycénienne, de la poterie philistine. Ça veut dire que Megiddo n'a pas été occupé avant Akkab par les Israélites. Ça veut dire que toute l'histoire de l'occupation de Megiddo par Salomon est fausse. La Bible se trompe ou nous trompe quand elle dit que Salomon a occupé Megiddo. Pourquoi ? Parce que moi, Israël Finkelstein, j'ai trouvé à Megiddo de la poterie philistine. Bon. Pas de chance. On trouve exactement la même poterie dans la vallée de Beth-Shan, dans un site que l'on sait être israélite à 100%, ça n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça prouve ? Que les Israélites ont copié la poterie philistine, tout bêtement. Seulement pour pouvoir le savoir, si on a affaire à une poterie d'importation d'origine philistine ou une poterie qui est fabriquée localement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben deux choses. Il faut la reconstituer en entier. Ou il faut analyser ses ingrédients, ses composants. Parce que justement, l'argile du pays d'Israël n'est pas obligatoirement le même que celui des îles de la Grèce. Et là maintenant, justement, on est arrivé au point où on peut faire des études extrêmement pointues sur le plan de la composition chimique des argiles qui sont utilisées dans les poteries et qui nous permettent de dire, n'est-ce pas, où la poterie en question a été manufacturée. Alors évidemment, ça, c'est des travaux qu'on ne fait pas pour n'importe quelle poterie parce que ça coûte très cher, évidemment, ce type d'analyse. Et on ne le fait qu'en dernière nécessité. Par contre, on peut trouver un moyen terme pour éviter ce genre d'erreur que j'évoquais il y a un instant, c'est de reconstituer la poterie dans son ensemble. Et ça, c'est toute une discipline de l'archéologie, n'est-ce pas, qui consiste à utiliser, à reprendre, si vous voulez, les fragments d'une poterie qui a été brisée, n'est-ce pas, et puis de reconstituer la poterie entière. C'est un puzzle, c'est un jeu de patience. Il y en a qui sont très forts dans ce genre de travail, c'est leur métier, ils ne font que ça. Et alors on reconstitue comme ça des vases entiers, des poteries entières. Et alors, selon la forme, selon la couleur, selon la décoration, sans aller jusqu'à des analyses aussi pointues que celles que j'ai évoquées, on peut dire, ben voilà, il y a de fortes chances pour que ce soit une copie en fin de compte. Vous voyez, c'est moins élégant que la poterie mycénienne faite là-bas. Bon, donc, manifestement, ici, on a affaire à une copie. Bon. Remarquez bien, vous voyez tout de suite combien aussi le travail de l'archéologue est complexe. Combien on peut se tromper. Bon. Maintenant, justement, quand on combine cette découverte par la poterie avec l'architecture qui, elle aussi, est typique et spécifique de certaines époques, mais hélas aussi de certaines régions. Parce que parfois, l'architecture est spécifique d'une région donnée, et dans une autre région, on va avoir un autre type d'architecture, soit d'architecture civile, soit d'architecture militaire, ça veut dire de fortification, soit d'architecture religieuse, c'est-à-dire les temples. Hein ? Bon, mais il y a quand même des traditions. Il y a quand même des traditions qui se déroulent dans le temps. Bon, il y a aussi des techniques plus élaborées de construction, de décoration, ou de fortification, si on a affaire, par exemple, à l'architecture militaire. Par exemple, en fonction aussi de l'apparition des techniques militaires de l'époque. Par exemple, au milieu du XVIIIe siècle, vous avez, sur le plan militaire, apparition d'une fortification tout à fait spéciale qu'on appelle type sandwich. Qu'est-ce que c'est que le type sandwich ? Vous avez votre muraille, hein, muraille classique. Voilà. Et vous avez ici, des deux côtés de la muraille, on a mis un espèce de rempart en terre, comme ça. Voilà, ça c'est de la terre. Bien tassé. On a tassé ça fort. Et on a remis ici une couche de pierre, comme ça. Puis, à nouveau, une couche de pierre, une couche de terre. Et ainsi de suite. Et vous avez par exemple ici, à Hatzor, dans le nord du pays, vous avez ici, à la base, le rempart, il fait 20 mètres d'épaisseur, à ce moyen-là. Ça, ça apparaît brusquement au milieu du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, attendez, une chose aussi. Là, en haut, on met des palissades, hein, comme ça. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, apparaît le bélier de siège. Et vous comprenez, si vous avez une muraille classique, simplement, comme ça, faite avec des pierres, vous amenez votre bélier de siège, vous battez la muraille, hop, votre muraille s'effondre. Mais si vous avez une structure de ce type-là, qu'on appelle type sandwich ou terre pisée, hein, vous amenez votre bélier, vous tapez. Qu'est-ce que fait votre bélier ? Il tasse la terre. Il tasse la terre. Et au lieu d'ébranler votre muraille, ça ne fait que la renforcer. Donc, si vous voulez, il y a adaptation de la muraille en fonction de la technique militaire. Et on sait que là, on a affaire à l'époque Hyksos. Pourquoi ? Parce que ce sont les Hyksos qui ont le premier inventé le bélier de siège. Jusqu'alors, le bélier de siège n'existait pas. Entre parenthèses, ça vous explique ce qui s'est passé à Jéricho. Car à Jéricho, les fameuses murailles de Josué sont de ce type-là. Même chose à Hatzor. Car à Hatzor, on est aussi à la même époque et on trouve le même type de miracle. Bon, vous avez une autre raison qui explique ça. Si vous voulez, dans le texte biblique, il nous est dit que quand les chauffards vont sonner le septième jour, chacun montera droit devant lui. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui va s'effondrer ? C'est cette partie-ci. Et là, si vous voulez, comme c'est une pente relativement douce, ben, si vous voulez, sans échelle, sans corde, etc., il est possible d'escalader cette partie-là. Et quand les Israélites vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont, plutôt c'était les Cananéens de l'époque des Israélites, c'est cette partie-là qui a été détruite, ils vont construire ça, vous comprenez bien qu'ils ne vont pas toucher à ça, ils auraient été bêtes de le faire. Et c'est pour ça, si vous lisez par exemple Miskenion, ou si vous lisez Finkenstein, ben oui, mais il y a un problème, c'est qu'à l'époque de Josué, il n'y avait pas de muraille à Jéricho. On n'a pas trouvé de murailles de l'époque cananéenne récente, ou de l'époque du bronze récent à Megiddo. On ne trouve que des murailles de l'époque du bronze récent de. Ah oui, mais alors, comme on dit Yadine, vous pensez bien que la population de Jéricho qui s'est emparée de la ville à la fin de l'époque des Hyksos n'a évidemment pas touché à cette partie-là. Et ils auraient été bien bêtes, évidemment, de ne pas reconstruire des murailles sur ce qui a été resté, qu'ils n'ont pas pu démolir. Comment ils s'en sont emparés, on n'en sait rien. Hein, ils avaient des techniques, certainement. Mais ils ont reconstruit cette partie-là. Et ça, c'est cette partie que les Israélites, qui s'est effondrée au moment où les Israélites se sont emparés de la ville. Peut-être aussi le tremblement de terre a pu toucher aussi la partie supérieure de cette muraille, qu'on retrouve à peu près intacte aujourd'hui. Que Miskenion a retrouvé à peu près intact, et qu'on voit très bien, vous vous souvenez, vous étiez avec nous, là, Luc, à Jéricho. Non, on n'est pas allé à Jéricho, peut-être si. On n'est pas allé à Jéricho, c'était déjà au moins des Palestiniens. Mais à Hatzor, on est allé à Hatzor. On n'a pas vu le camp, le fameux camp. Il y a la route qui traverse, le rempart. On a creusé une tranchée dedans pour pouvoir laisser passer la route moderne. Non, vous ne savez pas ça ? Non. Enfin, ah non, c'est dans le nord, c'est très très haut dans le nord, c'est vers les sources du Jourdain là-bas, c'est vers Métoula et tout ça, ce qu'on appelle le doigt de la Galilée. Non, enfin bon, peu importe. Ça c'est un premier exemple, si vous voulez, de l'évolution de l'architecture en fonction de l'époque. Donc on sait qu'ici on a affaire à l'époque Hyksos. Bon. Maintenant, ce problème-là, il peut être réglé d'une manière différente. Ce qui a été le cas à l'époque de Salomon. L'époque de Salomon, à un autre type d'architecture tout à fait particulier, qui est ce qu'on appelle la muraille en casemate. C'est-à-dire que vous avez une muraille, voilà, comme ça. Voilà, muraille, voilà, première muraille, ça c'est vu de haut, hein, de plan. Alors ça, elle est évidemment extrêmement vulnérable à une attaque par bélier de siège. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On construit une deuxième ligne de fortification avec un espace de, je ne sais pas, 1,50 m à 2 mètres. Et là, on construit des murailles perpendiculaires comme ça, tout au long de la muraille. Ça délimite, si vous voulez, entre les deux rangées de murailles, des espèces de chambres dans lesquelles on peut entreposer toutes sortes de choses, des vivres, des munitions, du matériel, n'importe quoi. C'est ce que la Bible appelle les villes qui ont été construites par Salomon, étaient des villes entrepôts, dit la Bible. Bon, voilà, les entrepôts. En cas de siège, l'ennemi amène ici un bélier. Qu'est-ce qu'on fait? On va remplir ces casemates, comme on les appelle, avec de la terre, avec des gravats, avec des pierres, avec n'importe quoi. Voilà. On vide ce qu'il y avait dedans et on les remplit de terre ou de gravats. Et quand le bélier vient taper ici, qu'est-ce qu'il fait? Il tasse, si vous voulez, derrière l'autre muraille, ce qu'il y a dedans. Et ça a le même effet, si vous voulez, que le type sandwich. C'est beaucoup plus facile à construire, beaucoup plus économique, vous le comprenez. Ça, c'est typique de l'époque salomonienne. Vous retrouvez ça à l'époque hérodienne. Ceux qui ont visité Masada savent qu'à Masada, c'est exactement le type de muraille qui fait tout le tour du site. Vous étiez à Masada et vous avez vu ça. Et on voit très bien justement les casemates, là, qui pouvaient être remplies de terre, ce qui a été le cas au moment du siège, au moment de l'attaque par la partie est. Bon. À l'époque de Salomon, il y a encore un autre problème, ou plutôt à l'époque qui nous intéresse ici, il y a un autre problème. C'est celui des portes. Dans une ville ou dans une place forte, l'endroit le plus vulnérable est évidemment celui de la porte. Bon. Une porte, dans l'Antiquité, c'est pas ça, hein. Une porte, c'est une forteresse en elle-même. Elle est en général flanquée de tours. Avec ici... Des espèces de bombes. Bon, là, cet endroit, forcément, c'est donc extrêmement vulnérable. Ça peut être défoncé. Ça peut aussi être brûlé. Mais si vous voulez, vous avez des défenseurs qui sont là sur la muraille, sur les tours, et qui vont bombarder ceux qui, éventuellement, seraient assez téméraires pour essayer d'approcher ici un bélier de siège. Bon. Maintenant, pour empêcher l'approche d'un bélier de siège, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on construit ici, à l'approche de la tour, on construit une autre muraille. Attendez, ça a du sens. Mais c'est ça. Oui. Voilà. Une autre muraille. Voilà. Comme ça. Qui arrive comme ça. Et qui rejoint ici, qui fait un cul-de-sac. Et là, vous avez un chemin de ronde au sommet de la muraille, si vous voulez, pour reprendre un petit peu ici votre rempart, le créneau, et là vous avez un chemin de ronde. Voilà, avec une palissade. Vous avez ici une garde qui patrouille constamment à l'approche de la tour. Si bien que quand quelqu'un veut rentrer dans la ville, il ne peut pas entrer ici directement. Il est obligé de longer pendant tout un temps la muraille de la ville et longer dans ce sens-là. Or, quand on est en armes, on a le bouclier à la main gauche et les armes à la main droite en général, à moins qu'on soit gaucher, c'est quand même assez rare dans l'Antiquité. Et pendant tout le temps où le visiteur progresse, il présente donc le flanc découvert à ceux qui sont sur le chemin de ronde, qui à tout moment peuvent intervenir. Et c'est seulement quand il arrive au niveau de la tour qu'on l'autorise ou qu'on ne l'autorise pas à rentrer. Si on vient avec des intentions hostiles, avec une armée, eh bien pendant tout le temps de l'approche en direction de la porte, on est sous le feu des défenseurs qui sont là. Et d'une manière vulnérable parce qu'on n'est pas protégé par le bouclier. C'est une technique que reprendront les croisés au Moyen-Âge, ça. Mais que vous trouvez déjà, donc, à l'époque canadienne moyenne. Déjà, on trouve cette technique-là. Seulement, à partir de l'époque Hyksos, nous avons vu, il y a un autre phénomène qui intervient. C'est que les Hyksos sont les premiers à introduire en Moyen-Orient le char de combat véritablement. Bon, déjà, les Sumériens connaissaient le char de combat. C'était des chars à quatre roues. Qui était certainement assez peu maniable. On a dans les annales de Sumer des récits de batailles de chars, hein. Mais bon, il semble que le char ait connu une éclipse depuis les origines de l'humanité, et c'est en fait les Hyksos qui vont le perfectionner. Le char, au lieu d'avoir quatre roues comme c'était le cas chez les Sumériens, va avoir deux roues. Il va être tiré par deux ou trois chevaux, général 2, à cette époque-là du moins, et donc comprend deux hommes, un conducteur et un tireur. Bon. Alors maintenant, il y a un problème avec ce type de fortification. Pourquoi ? Parce que le char, quand il arrive là, c'est bien, mais s'il ne peut pas faire un angle de droit, il est obligé de rentrer d'une manière directe. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, justement, là maintenant, les portes sont vulnérables. Donc je vais faire ici un plan vue d'avion. Prends par exemple l'époque de Salomon, mur en casemate, comme on a vu tout à l'heure. La porte va devenir un complexe absolument incroyable. Ici, elle est là. Vous avez l'entrée qui est juste à la largeur standard du char. Le char doit passer au centimètre près. Ça veut dire qu'il va pouvoir, il va devoir faire ce trajet-là qui s'étend sur 40 à 50 mètres au pas. Pour pas accrocher l'entrée. Mais là, vous avez en plus de ça. Le premier étranglement de la porte. Et vous avez à l'intérieur de la porte deux autres étranglements et un autre à la sortie. Et là-dessus, vous avez donc tout ça, c'est couvert, bien sûr. C'est-à-dire, ça forme des tours. Vous avez des gars qui surveillent là-haut. Qui surveille la progression du char. Et à n'importe quel moment, le char peut être bloqué à chacun de ses étranglements. Vous voyez ? Donc avant que le char ait traversé la porte, il aura fallu qu'il monte drôlement patte blanche. Voyez-vous ? Alors ça, c'est un type de porte qui apparaît à l'époque de Salomon. Quand on a ce type de porte, on sait qu'on a affaire à l'époque de Salomon et ses successeurs qui viendront ensuite après lui. C'est en général couplé avec justement la muraille casemate qu'on a vue là. Voyez-vous ? Alors ça justement, c'est couplé, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la céramique. Et ça nous permet justement aussi d'avoir une datation. Ça nous permet d'avoir une datation beaucoup plus précise que si on utilise uniquement la poterie. Maintenant, il y a un autre moyen de datation aussi, mais alors qui est beaucoup plus aléatoire, c'est les métaux justement. On a vu bronze, fer, etc. Il y a aussi un développement des objets de métaux, des armes essentiellement. Bon, des armes, on peut en trouver évidemment sur des sites ou lieux des batailles, mais surtout dans des tombes. En général, on enterrait les guerriers avec leurs armes, hein, si bien que les tombes sont les endroits privilégiés pour trouver des armes. Il y a un autre problème avec les objets de métaux, c'est que les objets de métaux sont sensibles à l'oxydation, à la rouille, et au bout d'un temps, ils disparaissent. Et pour qu'on retrouve des armes intactes ou des objets de métal intacts, il faut que les conditions aient été favorables justement pour que ces objets soient retrouvés sans être trop abîmés. Donc c'est beaucoup moins fiable que les poteries et justement l'architecture. Bon, ça c'est les techniques classiques. La prochaine fois, on verra les techniques plus pointues, modernes. Je vais parler justement des datations par les radioisotopes. On en parle beaucoup, c'est la tarte à la crème maintenant. Et on verra que justement là, c'est extrêmement discutable. C'est extrêmement discutable. Bon, finalement, je citerai simplement une expérience du professeur Gadin. Quand ces méthodes ont commencé à être un peu opérationnelles, disons, un spécialiste australien de ce type de questions est venu à l'université hébraïque de Jérusalem pour expliquer sa méthode. Gadin, qui était loin d'être un imbécile, a dit « J'ai écouté sa conférence, j'ai pas compris un seul mot. » Mais selon ce que j'ai fait après la conférence, je lui ai donné un objet que moi j'avais daté par les méthodes classiques, hein, et sans lui dire évidemment les résultats auxquels j'étais arrivé, mais je lui ai demandé de dater ça. Il s'est mis dedans complètement. Hein. Bon, c'est vous dire que finalement, les méthodes classiques restent encore les plus sûres. Même si aujourd'hui, finalement, empiriquement, les archéologues, les nouveaux archéologues sont obligés d'en convenir et ils l'utilisent, même sans le dire trop fort, quoi. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions ? Jordan ? Non ?
Il s'appuie sur quelle méthode alors ?
Bon, il s'appuie sur ça un peu, cette histoire de poterie, là, je t'expliquais tout à l'heure, là. Hein, poterie qu'il appelle philistine, qui est en fait. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce qu'il voulait dire, parce qu'il avait son langage à lui aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, j'ai compris que c'était finalement les poteries mycéniennes qui avaient ensuite été récupérées par les philistins. Quand j'ai vu les photos qu'il avait produites, j'ai reconnu du premier coup d'œil les poteries mycéniennes. Mais dont le fait justement qu'on en retrouve à Megiddo jusqu'à l'époque d'Akkad. Donc il dit, ça n'a pas été occupé par les Israélites avant l'époque d'Akkad. Donc Salomon n'a pas pris Megiddo, Hatzor et Gezer comme la Bible dit. Donc toute cette porte-là, ce système, il l'attribue à l'époque d'Akkad. Bon, des gens comme Amichai Mazar, qui avait fouillé justement Bet Rehov dans la vallée de Bet-Shan et qui a trouvé le même type de poterie là-bas. Bon, Bet Rehov, on sait que ça n'a pas été construit avant, ça a déjà été construit, ça avait été pris à l'époque des juges. La Bible nous parle de l'époque des juges, donc déjà à l'époque des juges, il y avait encore à l'époque des juges ce type de poterie qui était utilisé par les Israélites, quoi. Donc ça prouve rien du tout. Ça prouve rien du tout. Bon, c'est des choses comme ça, quoi. C'est une réinterprétation de toute la chronologie qui fait, quoi. On a vu comment la chronologie, c'est quelque chose de très discutable, de très aléatoire, donc il se bat sur la chronologie, mais on peut aussi le penser sur la chronologie automatiquement. Ça vaut dans un sens comme dans un autre. Donc, finalement, quand il a dit ce qu'il a dit, il n'a rien dit, quoi. Bon, autre question ?
L'époque byzantine est allée jusqu'à quand ?
Conquête arabe, 632, après Jésus-Christ. À peu près, parce que, bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Enfin, parce que les Arabes ont pris Jérusalem qu'automatiquement tout s'est arrêté, puis la culture arabe a pris le dessus du jour au lendemain. Hein. C'est pareil, il y a coexistence des différentes cultures pendant un temps. C'est pour ça que c'est pas net, quoi. Faut pas voir ça d'une manière académique. Autre chose ?